Nous approchons aussi de la fin de notre étude dans Philippiens, qui a duré un certain temps. Et on arrive donc au chapitre 4. Je ne vais pas lire le texte pour aujourd'hui tout de suite. Je vais faire un petit rappel des chapitres précédents pour nous remettre dans le bain et pour voir le pourquoi de ce texte qui me semble très pertinent pour nous. Donc, première question qu'on a déjà vue, c'est qui sommes-nous ? Bon, nous sommes chrétiens et nous avons vu au début des Philippiens que nous sommes en Christ et en la ville ou dans Christ, dans la ville, c'est impossible de traduire en quelque sorte parce que c'est le même mot. Nous avons une double identité parce que nous sommes chrétiens et nous avons aussi notre identité sur la terre. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes en Christ. Donc nous sommes dans Jésus-Christ et dans Philippe, enfin c'est une façon de dire, dans Jésus-Christ, dans Paris, dans notre vie. Et donc j'avais expliqué dès le départ que Philippe c'était une colonie romaine. Donc c'était fier de faire partie de cette colonie et c'est la raison pour laquelle dans Philippiens 3:20, il dit bien que nous sommes citoyens des cieux, pas uniquement citoyens d'une colonie, mais citoyens des cieux. C'est notre identité. Et à partir de là, la première fois qu'on trouve un impératif dans Philippiens, c'est chapitre 1, verset 27, qui utilise le même terme, même si dans ma Bible, version second, il est simplement dire seulement « conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile ». Le semeur le traduit « mener une vie digne de l'Évangile de Christ envers citoyens de son royaume ». Parce que le verbe, c'est « politeste » en grec, et le mot « polis » veut dire la ville. Donc « vivez en citoyen du royaume des cieux, mais ici, sur terre ». Donc ça, c'est le sens. Donc si on perçoit ça, on voit mieux en fait que nous sommes appelés à vivre d'une façon différente en étant sur la terre. Donc ça, c'est le « qui sommes-nous ? » Deuxième question, pourquoi vivons-nous ? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? Et il y a trois versets que j'ai cités là, chacun tiré donc, des chapitres précédents. D'abord, au verset 20 du chapitre 1, « Christ sera glorifié dans mon corps, donc dans ma vie. » Le but de notre existence, c'est de glorifier Christ. J'aime bien le début des Éphésiens où par trois fois il dit que nous avons été rachetés pour célébrer sa gloire ou pour célébrer la gloire de sa grâce. C'est la raison pour laquelle on existe. Dieu ne nous a pas créés pour nous, mais pour lui, pour se glorifier. Et donc Jésus est immolé dès avant la fondation du monde. Donc Dieu savait en quelque sorte que son Fils aurait ce rôle et notre rôle maintenant, c'est de le glorifier. Donc, autre façon de dire, Christ est ma vie. Il mourrait de mettre un gain. Donc, Christ est ma vie, je vis pour lui, c'est le centre de mon existence. Et au chapitre 3, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, chaque fois, on dit, on vit pour glorifier Dieu dans tout ce que je fais. Donc, c'est la prière du Notre Père, sanctifie ton nom, que ton nom, selon les traductions, soit reconnu, glorifié. Que les gens qui se rencontrent dans la rue se disent d'abord, qu'est-ce que Dieu est bon. Et qu'on le glorifie. La louange, c'est quoi? On peut louer quelqu'un directement en disant « Merci pour ce repas que tu m'as fait » ou on peut dire à quelqu'un « Ma femme est une bonne cuisinière, je la loue en quelque sorte. » Et je peux dire la même chose pour Dieu. Je peux lui dire « Seigneur, tu es bon » ou je peux dire à quelqu'un « Qu'est-ce qu'il est bon le Seigneur ?» Donc je suis en train de le louer et de l'adorer. Donc on vit pour cela. Donc tout ça, c'est un tout petit rappel, très rapide, de ce qu'on a vu dans cet épître. Maintenant, il y a une retombée extraordinaire. Et pour cela, je crois que la meilleure façon de le dire, c'est de citer Jésus, dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Toutes ces choses dans le contexte, c'était les païens s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, de quoi ils seront vêtus, enfin, de toutes ces choses matérielles. D'avoir une bonne vie, en quelque sorte, s'inquiète pour ça. Mais Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est un verset sur lequel, avec Marie, on est revenu beaucoup de fois ces dernières semaines. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alors, dans ce contexte, je vais lire ces versets de Philippiens 4, 4 à 9, pour voir ce que Dieu nous donne, si nous, on met Jésus déjà à la première place. Je lis, Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a un mot qui revient continuellement ici, c'est le mot « paix ». On va continuer en deux fois en tout cas. Verset 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et au verset 9, « Le Dieu de paix sera avec vous. » On pourrait aussi ajouter le commandement de la joie, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Donc la joie et la paix. Je pense que beaucoup de gens cherchent cela. Il faut s'amuser, il faut la joie, il faut la paix, il faut être zen. Enfin, utiliser des termes que l'on... On veut la sécurité, on ne veut pas se faire des soucis. C'est ce qu'on veut, en tout cas. Donc, ils les cherchent. Mais si on les cherche, comme beaucoup de choses dans la vie, dès qu'on pense l'avoir, c'est comme une bulle de savon. Dès qu'on le touche, oh, ça part. Si on le cherche directement, si on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si on cherche à glorifier d'abord le Seigneur comme retombée extraordinaire, on a tout le reste. On a tout le reste. Je sais pas. Cette expression est revenue. Retombée extraordinaire. En fait, il s'agit de vivre de façon cohérente. J'aime bien ce mot, cohérent. Je pense que c'est une façon, une autre façon de dire être sanctifié. On est cohérent. Entre ce que l'on dit, entre ce que l'on fait, dans toute notre vie, on est cohérent. Chaque fois que, quand on fait les soirées passerelles, à un certain moment, il y a un des personnages autour de la table qui dit bah, « Moi, je ne cherche qu'à être cohérent. » Et je dis à Marie, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Bon, forcément, parce que c'est moi qui avais écrit les textes. Non, je ne cherche qu'à être cohérent. Cette cohérence-là est importante. Parce que Dieu est notre fabricant, il sait ce qui est le mieux pour nous. Quand on vit comme cela, c'est à ce moment-là qu'on trouve cette joie et cette paix qu'on n'a pas autrement. Il faut en être convaincu. Donc, trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le bon païen qui cherche à s'amuser, à prendre du bon temps. Je me souviens, j'ai vu un truc sur Facebook après les attentats terroristes, quand on nous disait continuez à aller sur les terrasses, à boire un coup, enfin, etc. Ne vous laissez pas influencer par les terroristes. Et j'ai vu donc sur Facebook une sorte de dessin humoristique qui disait, moi, nous en France, ça tombe bien, on a des années d'entraînement pour nous amuser et bien boire et bien manger. Donc ça tombe bien, on est bien entraîné. Mais donc, je ne dis pas qu'un non-chrétien ne trouve jamais de joie et de paix à son niveau, si sa situation sociale le permet, si son contexte le permet, si son lieu de vie le permet, si tout va bien. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le chrétien qui peut connaître une plénitude de joie et de paix, et là je vais plus loin, malgré sa situation sociale, son contexte, son lieu de vie, etc. Parce que sa joie est en Christ, sa paix est en Christ et non pas dans ses circonstances. Okay? Deuxième cas de figure, ce qui est le cas ici. Troisième cas de figure, qui est le pire, c'est le chrétien qui sait que c'est la seule façon d'être joyeux et d'avoir la paix et qui ne cherche pas dans ce sens-là. Parce que là, il est vraiment malheureux, parce qu'il était éclairé, parce qu'il sait ce qui est bien. Mais il ne vit pas en cohérence avec cela. Et j'aime beaucoup ce verset qui se trouve un petit peu plus loin dans les rois, un roi 18, un roi 8 ce matin. Quand Élie s'approche du peuple, donc qui allait chercher les Baals, et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et le texte ajoute, le peuple ne répondit rien. Le peuple n'a rien dit. Il ne savait pas. Le bec cloué. Il ne savait plus quoi dire. Donc, le troisième cas de figure, c'est le cas dans lequel il faut, surtout en tant que chrétien, s'attacher à comprendre comment il faut faire. Parce que c'est le pire des cas, d'avoir été éclairé, de savoir que c'est la bonne voie. Et de s'en détourner et chercher la joie et la paix ailleurs. Alors, comment faut-il faire pour vivre avec cette cohérence? Donc, à partir de ce texte, je propose quatre choses. Donc, voilà. La première chose, le verset 4, c'est se réjouir. Alors, cela veut dire quoi? Parce que nous ne sommes pas forcément dans des situations réjouissantes. Pas toujours dans une situation qui fait que automatiquement on a les sentiments de joie qui nous inondent, c'est pas automatique. Et probablement quelque part, une des grandes caractéristiques de notre temps, c'est que le feeling, les sentiments, les émotions ont tendance à primer par rapport à la volonté. Et je pense que là, quelque part, il faut qu'on fasse attention. Parce que le Seigneur nous dit de l'aimer de tout notre cœur. Et quand on voit les cœurs, on pense tout de suite sentiment. Alors que ce n'est pas tout à fait ça dans la parole de Dieu. Que ce soit en hébreu ou bien en grec, que ce soit dans la pensée de l'Antiquité juive ou l'Antiquité gréco-romaine. Le cœur n'était pas le lieu des sentiments. C'était le centre décisionnel, on dirait presque cerveau, sauf que, bon, ils savaient qu'il y avait le cerveau aussi, mais c'était la volonté. Et c'est pour ça qu'on a le mot courage qui va avec cœur. C'est même un peu la même racine. On a du courage, on prend une décision courageuse, on réfléchit, on pense et on agit d'après cela. Donc, dans la façon dont les anciens regardaient l'être humain, avec une certaine intériorité, que l'on appelle ça esprit, âme ou cœur, c'était pas uniquement la question de sentiments. Les sentiments, d'ailleurs, c'était ailleurs. C'était des entrailles. C'était des entrailles. C'est là où, on sait, parfois ça bouillonne avec des sentiments. Pour eux, c'était là. Il y a pas mal de versets dans la Bible qui parlent des entrailles, de miséricorde, enfin, etc. Parce que c'est là où il y a des sentiments. Mais pas le cœur. Donc, on doit se réjouir. Et comment on va faire? Moi, je pense que l'on va réfléchir à ces circonstances, on va tenir compte de ça, et on va décider de rendre grâce en toute chose. C'est une décision. Et c'est pour cela que si la paix, en quelque sorte, c'est quelque chose qui nous vient, il gardera nos cœurs en paix. La joie, c'est une question, c'est une décision, on décide. Ce qui n'est pas, ce qui est à renouveler tous les jours, parce que ça ne revient pas automatiquement, tous les jours. Donc chaque fois que l'on parle de cette joie, certes, il y a la joie qui est le fruit de l'esprit, mais aussi le commandement de rendre grâce en toute chose et d'être joyeux. Vous connaissez déjà peut-être le verset qui dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux et rendez grâce en toute chose. » Donc, on doit le faire. Ou dans Éphésiens 5 et le verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toute chose. » Et je pense que ce lien entre rendre grâce ou dire merci, être dans la joie, est un lien très fort. Parce que quand on s'arrête et on réfléchit à tout ce qu'on a de bien, à toutes les raisons d'être joyeux, là, la joie va surgir en quelque sorte. Donc, se dire merci pour toute chose. Ça demande une certaine décision. Donc voilà, je pense que la première chose pour la cohérence, c'est un ordre, pas une description, c'est un ordre de nous réjouir en toute chose. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La deuxième chose, c'est se rappeler que Dieu est bien là et proche de nous. Verset 6. Pardon, verset 5. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Proche parce qu'il est là, mais proche parce que nous sommes continuellement devant lui. On ne peut pas échapper à sa vue, en quelque sorte. Le psaume 139 le dit. Il connaît nos pensées, nos paroles avant de les prononcer. Il connaît nos actes. Il sait quand on se lève, il sait quand on se couche. Et si je dis, je vais prendre les ailes de l'aurore, je vais aller jusqu'aux extrémités du monde, je pars, j'y arrive, je descends de l'avion, il est là. Je dis, la nuit va me cacher dans l'obscurité. Mais Dieu n'a pas besoin de lunettes spéciales pour voir la nuit. Il connaît, il est proche. Ce qui peut soit faire énormément peur, soit nous réjouir. Et nous dire, voilà, il sait tout, il m'aime quand même. Parfois, je suis obligé de demander pardon. D'autres moments, je fais confiance. Mais il est là, il est là. Et c'est pour cela que dans ce grand chapitre de Matthieu 6, qui termine, comme on a vu tout à l'heure, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », il est énormément question de ne pas s'inquiéter. Et le verset que j'aime beaucoup, c'est le verset 32, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses. Il sait. On ne passe pas inaperçu devant lui, il sait. Par conséquent, deux choses, puisque le Seigneur est proche. Première chose, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pas besoin de violence pour survivre. Parce qu'il est là. Et qu'il veille sur nous. Il s'occupe de notre cas. Il ne s'agit pas d'être naïf. C'est pas ça. Mais il n'est pas besoin de jouer des coudes en quelque sorte pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. La confiance, notre douceur. Et je trouve, depuis un certain temps, qu'il y a de plus en plus de violences de différentes sortes dans notre société, que ce soit le monde politique, les prises de position, les gens qui qui bouscule dans le métro, qui pense en fait sa force de violence qu'on obtient quelque chose. Et que les chrétiens, on peut rester doux parce que le Seigneur est proche de nous. Et puisqu'il s'occupe de nous, il veille sur nous. La deuxième chose, pas besoin de nous inquiéter non plus. Le verset 6 le dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, donc en disant merci chaque fois. Bon, pourquoi s'inquiéter? Qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant, traduction second 21, à la durée de sa vie? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser, anticiper, mais les inquiétudes ne résolvent rien du tout. Le Seigneur est là. Donc on peut vivre de façon cohérente. On peut lui faire confiance. Même s'il y a des points d'interrogation énormes des fois. Mais on peut lui faire confiance. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose. C'est bien utiliser notre cerveau. On a tous un cerveau à l'intérieur de la tête. Et que fait ce cerveau? Il tourne. Continuellement. Il tourne. Bon, c'est une façon de le dire. Il pense. Je dirais jour et nuit. Parce que le jour, par la nuit même, on a nos songes, nos rêves, etc. Ce courant de conscience, flux de conscience, en anglais, on disait « stream of consciousness », qui était beaucoup utilisé dans les romans et les films, surtout au XXe siècle. Donc, bon, tout ce qui passe par la tête, il mettait sur les pages du livre, ou dans le film. Et on ne s'arrête jamais de penser. Parfois, d'ailleurs, ça nous empêche de dormir, parce que les pensées tournent encore. Pour moi, ça fait deux nuits de suite que j'ai vraiment pas bien dormi, à cause de l'actualité. Paul dit à Timothée, réfléchis bien à ce que je te dis. Donc, on peut utiliser notre pensée. Dans une certaine mesure, ça nous échappe, parce que tout d'un coup, nos pensées vont quelque part. Mais ici, il dit qu'un certain nombre de choses soient l'objet de nos pensées. On va penser à quoi? Quand on est seul, quand on est sur les quais du métro, quand on est dans la voiture, quand on pense à quoi? Et je pense que le Seigneur nous dit, mais pense à des choses importantes et vraies. Donc la liste ici, je vais le lire dans une autre traduction. Et je trouve que c'est une belle façon de dire, c'est encore le second 21. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Pas besoin de développer. Mais quand on voit qu'une pensée n'est pas vraie, de le remplacer par quelque chose de vrai. Quand on voit quelque chose qui n'est pas pur, de remplacer par quelque chose de pur. Quand on est méchant, de le remplacer par quelque chose de noble. Donc de penser à des choses comme ça. Et surtout, ça veut dire, on va penser à tout ce qui est très attirant. On revient au début de cette prédication du Seigneur, de Jésus, que l'on va glorifier. Bon. Ce n'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain. Il va falloir toute notre vie, et encore. Mais c'est bien utiliser notre cerveau pour être le plus cohérent possible entre ce que l'on sait dans la parole de Dieu et ce que nous pensons. C'est important. Et la quatrième chose, c'est suivre l'exemple de ceux qui marchent avec Dieu depuis plus longtemps. Ça, c'est le verset 9. Paul part de lui-même, il dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Donc, ça veut dire que si on est chrétien depuis plus longtemps, on a un certain devoir de progresser, non seulement pour soi, non seulement pour le Seigneur, mais pour les plus jeunes dans la foi qui vont suivre cet exemple quelque part. C'est important. Et j'ai écrit ici, tout d'un coup ces pensées me sont venues. Si vous êtes plus jeune dans la foi, par exemple au moment du repas, demandez l'avis de ceux qui ont vécu avec Dieu pendant plus longtemps. Posez-leur des questions précises. Observez-les. Écoutez leurs témoignages. Et surtout, demandez-leur s'ils regrettent un seul instant leur vie avec le Seigneur et les bons choix qu'ils ont faits. Et demandez-leur s'ils regrettent les mauvais choix qu'ils ont faits. Ils ont plus d'expérience. Donc, tout cela a aussi son importance. Pourquoi ? Parce qu'au fond, donc on revient à cette première chose qui doit occuper notre pensée, la toute première chose, tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Parce que je suis de plus en plus convaincu que le pire des péchés, je vais dire quelques personnes ici, le pire des péchés, c'est le mensonge. Dès le jardin d'Éden, le mensonge. Dans les Romains, remplacer Dieu par des idoles. Jésus a dit dans Jean 8, « Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père, il était meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et tout part en vrille à partir du moment où on n'est pas dans le vrai. On est dans l'illusion. Et le monde essaie de nous imposer une autre façon de voir le vrai qui n'est pas le vrai. Donc voilà. Quatre façons dans ce texte de vivre cette cohérence et de dire « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, il vous donnera tout le reste en plus. » Conclusion ? J'ai mis en gros caractère. « Alors, le Dieu de paix sera avec vous. » C'est un cercle vertueux. On l'a déjà vu au verset 7, « La paix de Dieu » qui nous donne comme retombée extraordinaire, que va faire cette paix ? Il va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et quand nos pensées sont en Jésus-Christ, il nous donne la paix. Donc, c'est le cercle vertueux. Je vais prier, et je vais demander à Olivier de chercher le chant de 671 dans J'aime, j'ai décidé. 671, j'aime 2, je pense. Seigneur, quand nous venons ici le dimanche, ce n'est pas pour simplement suivre une routine, ce n'est pas pour jouer des jeux religieux, c'est parce qu'il y a un tel enjeu spirituel de savoir si c'est toi qui seras à la première place. Ton royaume, ta justice, le fait de te glorifier dans notre corps, ou bien si c'est la façon de penser du monde qui va nous dire « Vas-y pour le développement personnel, vas-y pour te mettre d'abord à la première place. » Seigneur, nous refusons. Nous voulons que ton nom soit glorifié. Tu en es digne. Tu en es digne de livre d'ouvrir les sceaux de ce livre, parce que tu as racheté par ton sang des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Seigneur, nous voulons vivre en cohérence avec cela, parce que finalement, il n'y a que comme cela que toi tu serais glorifié et que nous serons vraiment heureux. Aide-nous, Seigneur, à se dire cela et à mettre en pratique jour après jour pour la gloire de ton nom. Amen.